Bah nous recevons Charlotte ce samedi après-midi. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Bienvenue à l'antenne d'Attitude. Vous êtes au stand 2, au stand 21 je crois.
Tout à fait.
Exactement.
Et au stand 21, Chaudron et Baluchon, c'est le nom de votre entreprise, de votre société, qui a été créée récemment au mois d'avril. Hein, on en parlait hors antenne. Alors là pour le coup on fait un joli voyage très ancestral, parce que là on va parler d'une technique assez ancestrale, de vieille de plus de...
Oh, on a presque 3000 ans d'histoire hein, par rapport au tissage.
Et alors voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement? Là on est sur le tissage.
Voilà, donc moi je suis artisan de métier d'art, donc je pratique en fait du tissage antique. C'est une technique de croisement de fils qui permet de faire ce qu'on appelle des galons. Et les galons, c'était l'ancêtre du billet qu'on utilise aujourd'hui pour nos vêtements ou pour faire une ceinture. Voilà.
Alors là, ce que vous nous proposez aujourd'hui sur votre stand, c'est que vous avez décliné un petit peu cette méthodologie de tissage pour en faire, thème avec la gastronomie, des rondes serviettes par exemple, et puis bien d'autres encore. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors moi je propose de la décoration de table avec des petits rubans qui permettent de faire des nœuds ou des rondes serviettes, de quoi décorer le sapin de Noël aussi avec des guirlandes qui sont plutôt du coup à tendance écologique, puisqu'on est sur de la filière laine française avec des matières travaillées en teinture végétale. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment de faire l'alternative à tout ce qui peut être assez polluant, même si je me suis quand même un tout petit poil amusé en faisant une petite guirlande avec de la lande LED. Voilà, parce que c'est fun. Voilà.
Pour apporter un peu d'originalité.
Oui, et puis de gaieté, c'est quand même les fins d'année. Donc,
absolument.
Il faut que ça brille quand même. Hein.
Comment est-ce qu'on arrive à se dire un jour, allez, on fait du tissage vieux de plus de 3000 ans?
Ah oui, alors, oui, c'est vrai qu'on pourrait se demander. En plus, j'étais ambulancière d'État juste avant d'être tisserande.
Et puis, vous avez... Vous n'avez pas 3000 ans, voilà, vous avez bien vieilli, donc...
Je suis super bien conservée, n'est-ce pas? Non, en fait, moi je dirais que c'est plutôt familial, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont très curieux d'histoire, qui m'ont toujours un peu traînée dans les manifestations médiévales et tout ça. Puis je me rappelle avoir fait déjà la réflexion, genre, ah, moi aussi un jour j'aurai mon stand. Bon, voilà, les gastronomates, c'est pas très médiéval, mais le but pour moi, c'est surtout de faire ce qu'on appelle de la vulgarisation de l'histoire, parce que nos enfants actuellement sont pas toujours en connaissance de ce qui a pu se passer dans le passé, etc. Puis même de comprendre aujourd'hui nos façons de vivre et ce qu'on, la façon dont en fait on amène des choses, très souvent sans tirer de l'histoire. Donc effectivement je maîtrise le tissage, mais quand je commence à évoquer des choses, ne serait-ce que sur le stand 21 pour les gastronomades, je parle par exemple de la gastronomie gauloise pour tout simplement un petit peu casser les préjugés. On me demande toujours si bien sûr on mange du sanglier, mais c'est pas vrai.
Non, c'est pas pour les Gaulois. Ouais,
mais ça me permet tout simplement de d'amener gentiment un petit peu d'histoire sans que ça soit forcément il était une fois et que ça soit lourd comme on peut des fois. L'avoir dans
que ce soit plus vivant. Mais vous parliez des enfants, éventuellement de nos enfants qui ne savent pas forcément, etc. Mais même nous, j'ai envie de dire, parce que si je pose la question à Seb, à John, parce qu'aujourd'hui on sait que ce qui tient notre pantalon c'est un bouton simplement.
Oui.
Mais autrefois, est-ce qu'on sait vraiment ce qui tenait notre ce qui était peut-être même pas un pantalon à l'époque, même d'ailleurs.
Non, on a fait ça une braie à l'époque.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer?
Alors la paire de braies, c'est une jambe quoi en fait, et donc une paire ça fait deux jambes, etc. Et pour pouvoir le tenir, on avait ce qu'on appelle une fibule. Une fibule qui est tout simplement une petite épingle à nouer. J'en ai une, bien sûr on voit pas à l'entendre, mais j'en ai une autour de la taille,
une fibule
qui est en fait l'ancêtre de notre épingle à nourrice.
Voilà, c'est plein de petites choses comme ça sur votre stand,
voilà.
D'anecdotes
tout
que vous allez nous raconter, nous conter.
Oui, nous conter, oui, parce que du coup, tout le monde m'évoque, c'est pour Noël. J'ai fait non, c'est pour Yule. Oula, Yule, qu'est-ce que c'est que Yule? Et puis je leur fais, c'est la fête des païens.
Oui.
Parce que
oui.
Avant le christianisme qui est arrivé il y a environ 2023 ans, techniquement, on avait les païens qui avaient la fête de Yule. Et la fête de Yule, la tradition c'était que nos plus jeunes et les plus anciens aillent dans la forêt chercher une bûche de bois. Et quand on le ramenait le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, qu'on le ramenait dans la maison, on le mettait dans le foyer, ça permettait de ramener la chaleur et la lumière jusqu'au printemps.
Mais c'est-à-dire que là, on est en train de parler de 2023, effectivement, quand c'est arrivé. Mais juste si on fait un petit calcul mathématique très rapide, ça veut dire que la méthodologie de tissage vieille de 3000 ans, en fin de compte, elle était pas très 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 loin de notre époque ou quand l'an zéro est arrivé, en fin de compte, alors.
Tout à fait. En plus, je vois régulièrement des femmes qui s'arrêtent devant mon stand qui ont de superbes sacs avec de grandes arabesques, de grands volumes. Je leur dis, vous savez que je reproduis ça à la main. Et là, elles me font, ah, mais du coup, vous me dites que vous parlez d'histoire. J'ai fait, oui, mais vos motifs, ils datent de 3000 ans au moins.
Et oui, c'est ça.
Mais
oui.
Ça revient au goût du jour parce que c'est comme ça. On a quelque chose dans l'ADN aussi qui fait que... Bah,
dans la perspective, il y a de très jolis motifs.
Tout à fait, oui. Oui, oui, absolument. Des fois, on n'invente pas l'eau chaude, hein. Même pour la mode. Les modes, des fois, on dit ah, oh, bah, dis donc, ça, c'était du temps de mes grands-parents ou de moi quand j'étais plus jeune et tout, ça revient en avant. Bah, là, c'est exactement pareil pour le tissage. Hein.
Alors, je vois sur votre petit flyer, alors, oui. Rappelons le nom de votre entreprise, hein. Chaudron et Baluchon. Alors, ça, c'est mignon comme tout. Il y a un petit QCM concernant l'alimentation. On est au gastronomade. Alors, je vous propose qu'on fasse le petit jeu tous ensemble à l'antenne. John, peut-on trouver des bananes au banquet de Vercingétorix?
Vercingétorix, oui, ils connaissaient l'Afrique.
Alors, la réponse?
Non, pas forcément.
Ils connaissaient l'Afrique.
Oui, il y avait la connaissance de l'Afrique, mais effectivement, c'était plutôt romain de vouloir aller jusque dans les frontières égyptiennes ou de l'Afrique.
Mais Vercingétorix a été romanisé. Enfin, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein,
Il a été romanisé, en effet. Il a fait ses classes militaires avec Jules César. C'était un fils de chef de clan, et les chefs de clan devaient donner un de leurs fils à la nation romaine qui était pris en charge pour leur service militaire et il revenait plus tard.
On parle
de bananes et on termine avec
c'est pour ça qu'il a réussi à gagner quelques victoires, c'est parce qu'il se battait avec leurs armes.
Tout à fait, mais ça permet aussi de retracer des histoires, ce genre de questions anecdotiques.
Effectivement...
Donc c'est pas complètement faux.
Non, voilà, et puis c'est exactement ce qui fait toute la richesse de votre stand. Allez, j'en fais une autre pour Seb. Est-ce que l'impérateur Jules César mangeait de la paella?
La paella, je dirais... Ah, c'était peut-être dans son territoire, mais... Mais non, allez, on va dire que c'était inventé plus tard, peut-être.
Il aurait pu faire de la paella à base de blé, à la limite. Mais oui. Le riz est arrivé quand même. On est sur la prémisse.
On est sur les prémices.
Parce que on commençait à voir les nations asiatiques qui commençaient quand même à redescendre sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, etc. Mais oui, il y avait quand même un peu de mélange de tout ça, mais c'est pas complètement anodin et c'est peut-être faisable d'ailleurs. Hein. On pouvait certainement retrouver peut-être de la paella s'il avait des émissaires qui étaient passés par l'Asie et qu'ils l'auraient ramené. Alors je pense qu'il l'aurait fait plutôt avec du blé. Pourquoi pas?
Allez, une dernière pour la route parce que je vois qu'il y en a plusieurs sur le flyer. Une dernière. Peut-on commander un grand cornet de frites avec son sanglier dans un fast-food à Pompéi?
À Pompéi.
Pompéi. Pompéi.
Avant ou après le volcan?
Parlons de la question de la carbonara, là c'était cramé.
Après le volcan, c'est trop cuit.
Le sanglier était sûrement fumé, oui. Mais après, les frites, on passera peut-être.
Non, il n'y avait pas de pommes de terre.
Voilà. Mais par contre.
Parce que les pommes de terre arrivent au Moyen-Âge et elles n'étaient pas mangeables parce qu'elles étaient considérées comme sataniques.
Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est parce qu'elles viennent de la terre.
C'est Parmentier qui les a créées à un certain docteur, un jour de grande famine, enfin une année de grande famine. Il a dit pourquoi pas essayer.
Mais alors, il paraît pas comme ça, mais il est vachement cultivé en fait, notre ami John.
Il se révèle.
Alors, des vulgarisateurs d'histoire, j'en connais quelques-uns, il y a pas mal sur YouTube, et je suis très curieux et j'en suis pas mal.
Je sais pas si ça on peut aide. Les citer, mais ouais, il y en a quelques-uns.
Moi, j'aimais bien Nota Bene, entre
autres. Nota Bene, moi, c'est ma référence. C'est voilà. Mon livre
et
de chevet.
Nota Bene, et génial, il explique bien.
Je peux pas dire que j'essaye de faire comme lui, mais je m'inspire.
Vous inspirez.
Il fait des Nota Bene, justement.
Tout à fait.
Il reconnaît ses erreurs.
Mais par contre, pour répondre à la question, en effet, le cornet de frites et le sanglier, le sanglier chez les Gaulois, c'est sacré, donc on n'y touche pas. Hein. C'est un peu comme une vache en Inde. Par contre, il y avait des fast-foods. Ça existait, les fast-food à Pompéi.
Ah bon ?
Oui, tout à fait. Il y avait des bancs comme ça, avec des trous creusés directement dans un comptoir en terre. Et il y avait des systèmes un peu de chauffe-plat par en dessous. Et en fait, toute la journée, vous pouviez venir et déguster des plats. vous pouviez déguster des plats tout le long de la journée. Donc en fait, le fast-food existait un petit peu entre guillemets.
Mais la street food a toujours existé. En Chine, elle date d'il y a 3000 ans, ils ont retrouvé des traces de street food.
Tout à fait.
Vous l'aurez compris, effectivement, c'est riche d'abord.
C'est génial ce QCM.
Riche de... Je l'avais pas imaginé comme ça, mais oui.
Ouais, nous on anime, hein, alors là nous on fait des jeux, il y a pas de problème. Comme sur France 3, il y a aucun problème. sur votre stand, on en revient. Donc alors, on retrouve plein de choses en fin de compte, hein, c'est ça.
Tout à fait.
Donc les ronds de serviettes, quoi d'autre?
Les ronds de serviettes, les petits nœuds pour pouvoir faire de la décoration de table. Ça peut être aussi des petites choses à personnaliser comme des marque-places. Des fois, il y en a qui le font aussi, hein, ça. De quoi faire des chemins de table. Je vends aussi des ranges serviettes. Ça, c'est du liège pulvérisé sur du tissu. Donc, tissu liège. Parce que j'ai quand même un côté très éco et recyclable. Mes petits livrets de recettes gauloises que j'ai moi-même créés pour l'événement. D'ailleurs, je vous le laisse.
La cuisine gauloise.
La cuisine gauloise. Donc, vous aurez une superbe recette de saumon. Saumon fumé. Qu'est-ce que j'avais mis dessus déjà ? Du saumon fumé en entrée, il y a du sanglier, bière, miel, pomme en plat de résistance et en dessert des petites galettes fines très légères cuisinées dans la graisse de canard.
Alors ça, effectivement, ça a l'air très 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 bon. Et je vois qu'effectivement, dans votre fascicule, vous avez mis l'ensemble des recettes avec une petite phrase hein, quand même. Hein. Notre alimentation moderne nous permet d'avoir accès à tous les aliments du monde, mais à l'époque, bon nombre d'aliments sont inconnus car ils viennent d'autres continents encore inexplorés. Et c'est ça que vous nous faites découvrir dans ce fascicule avec ces recettes. Ces recettes, c'est vous qui les reprenez, les imaginez, vous vous renseignez. Quelle est la méthodologie de recherche?
Alors la méthodologie, c'est ce que je disais au début. Hein. Moi, je suis quand même sur de la reconstitution archéologique. Donc quand on fait des fouilles, la plupart des choses qu'on va trouver déjà, c'est des foyers. Donc c'est les points chauds, en fait, tout simplement, où on cuisine, hein, c'est votre gazinière. Et très souvent, on retrouve des traces de pollen, on va retrouver des grains encore carbonisés, on va retrouver des pots dans lesquels on aurait cuisiné, etc. Et tout ça, ça nous renseigne aussi sur les habitudes alimentaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les poubelles domestiques, où en fait, quand on jette nos aliments, il y en a certains qui restent très longtemps dans le temps. Et en faisant des analyses ADN, on peut comprendre et on peut savoir qu'est-ce qui consommait, à cette époque-là et à ce moment-là. Et à partir de là, moi, je reprends... bien sûr avec une sensibilité moderne parce que je suis née quand même en 91, hein, même si ma fille me dit que je suis vieille mais jolie. ou jolie et vieille, ça dépend comment on le voit, mais voilà. Je le fais quand même avec une patte assez moderne, mais on essaye de se mettre aussi dans la peau de j'ai un feu de bois, un chaudron, qu'est-ce que je fais avec? D'où le nom de chaudron et baluchon d'ailleurs.
Ouais, d'ailleurs, on donne le site internet www.chaudronetbaluchon.com. Si on souhaite venir vous voir sur le stand, c'est le stand numéro
21.
Stand numéro 21. Et si jamais on n'a pas la possibilité de venir au Gastronomade, on peut peut-être vous contacter sur un numéro de téléphone peut-être.
Oui, le 06 74 70 43 59.
06 74 70 43 59 ou bien sur le stand
21, toujours.
On retrouve Chaudron et Baluchon avec tout ce que vous allez pouvoir nous proposer et l'envie d'en apprendre encore plus sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise peut-être pas forcément.
Avec grand plaisir, je renseignerai là-dessus.
Merci Charlotte. Passez un bon week-end ici au cœur de l'espace Cara et des gastronomades. Merci de nous avoir partagé ce grand moment de culture et puis votre passion, votre savoir-faire.
Merci pour l'invitation, c'était avec plaisir.
Merci beaucoup et très bon salon à vous.
Vous aussi.